1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut à toutes et à tous, c'est Yann avec vous sur Canal B pour l'émission Le Grand Tout, une émission quotidienne du lundi au vendredi, 17h-18h, nouveautés musicales, info culture, info concert et rediff du mardi au samedi matin de 9h à 10h. On retrouvera tout à l'heure Louise Katz qui elle aussi a participé à ce recueil Reine Noire des Nouvelles Noires à paraître le 7 mai prochain chez Asphalt. Elle nous emmène du côté du Blône avec sa nouvelle À la Blône Franquette. On découvrira une Marie-Ange officiant dans un restaurant solidaire qui peu à peu se laisse déborder par un trafic de drogue sous ses yeux et même dans les murs du restaurant. On pourra aussi retrouver tout à l'heure Léa pour sa chronique bande dessinée, c'est Onde Graphique, 8e du nom. Elle nous présentera deux bandes dessinées, Chat Pernucci de Jutta et puis aussi Ketsudan de Mud et Motelier, une drôle d'adaptation version japonaise médiévale du Cid de Corneille. On commence directement le grand tour aujourd'hui avec un nouvel extrait de notre disque d'or de la semaine, un album riche de plein d'influences, jazz, musique cosmique, soul, rap aussi, musique psychédélique. C'est l'excellent album The Ark pour le musicien et poète de Trinidad, Anthony Joseph. Voici le titre James qui raconte une soirée chaude dans un entrepôt à New York avec deux étages, un étage plutôt house, l'autre destiné plutôt à la soul, et on entend la description d'une danse effrénée par le narrateur. Bonne émission.
Bridge and Greenpoint in Brooklyn. The Delphonics were overflowing from Hot 97. Deep soul, the kind of soul that blows cold as cold New York in December. This would only happen once. We had no hot heat nor running water. But earlier, we had been discussing Glissant, Fanon, and Breton. Ruminating upon Ted Jones and Bob Kaufman before heading into the village. And James, he was the greatest dancer in the club that night. I had to stop to watch him spin when he threw his hands up and twirled, voguing into something ecstatic. As the sweat kept dripping from the walls of the basement, he threw his shirt open to Archie Bell and the Drills. He threw his head back, the somersault in his skin. The floor upstairs was different. It was all orange haze and house. More mellow the tempo, more easy on the knees. It was cool. That is until a tall black and white dog entered the dance. It had walked all the way from some dirt skid village in Trinidad to New York
where it walked onto the dance floor, wagging its tail to bite them on the ankle, to bite them on the knee, bite them while they're dancing, to bite them. Place. The dog busts a laugh in the DJ face. The dog threw a bottle in the people dance. The dog press a button and the DJ jump. And then they stand at the door holding a razor blade rubbed with garlic, so people running out wouldn't know they get cut when they're running out and get cut stupid stupid. And when I told James that he was a dancer with hips of precision, that he could move, he left and he clicked his heels on St. Mark's Place. That's what they say, he said. That's what they say. Should open to the Archie Bell and the Drells. He threw his head back, somersault in his skin. We had been discussing Ted Jones and Bob Kaufman.
Anthony Joseph à l'instant avec un extrait de l'album The Ark, notre disque d'or de la semaine. Vous l'entendiez avec le morceau James. À suivre, la page culture du Grand Tout. Dans le Grand Tout aujourd'hui, on retrouve l'autrice et journaliste Louise Katz qui nous lit dans un instant un extrait de sa nouvelle à la Blaune Franquette, extraite du recueil Reine Noire.
Marie-Ange but d'une traite son verre de kombucha gingembre et le reposa lourdement sur le comptoir comme s'il s'agissait d'une pinte de bière. Elle essaya de se ressaisir. Elle avait le cœur lourd, mais ce soir, c'était sa fête. Il fallait quand même qu'elle essaye d'en profiter un minimum. Elle se retourna pour contempler la salle. La Blonde Franquette, le restaurant solidaire qu'elle avait ouvert 5 ans plus tôt dans le petit centre commercial Torigné, était noir de monde. Tout ce que le quartier du Blône pouvait compter d'acteurs associatifs, d'agents de services publics et de salariés du secteur socio-culturel avait répondu présent. Ne manquait plus que l'adjointe déléguée au quartier et la maire en personne, dont l'arrivée devait être imminente. Personne n'aurait voulu rater la dernière soirée de ce restaurant atypique qui était devenu, à la surprise générale, un pilier de la vie économique du quartier. Myriam, qui finissait son service civique à la Blonde Franquette, se faufila à travers les convives et parvint péniblement jusqu'à la coordinatrice. Elles sont là. Marie-Ange soupira. Elle manquait présentement de toutes les qualités requises pour affronter un moment de sociabilité professionnelle et politique. Affabilité, assertivité, stratégie. De toute façon, elle avait l'impression de n'être dotée d'aucune qualité tout court. Elle avait tout raté, s'était plantée sur toute la ligne. Marie-Ange était au bout du rouleau. Tout ce qu'elle aurait voulu, c'était rentrer chez elle, s'envoyer l'intégralité d'une bouteille de vin, se mettre en position latérale de sécurité et sangloter sur son sort comme un bébé. Elle rejoignit la salle du restaurant à pas longs, comme si elle marchait vers l'échafaud. Tous l'attendaient. Tous, tout sourire. En dépit du monde, Marie-Ange se sentait désespérément seule. Elle salua la mère, qui s'étonna de la voir aussi fatiguée. « Marie-Ange, tout va bien. Vous avez l'air épuisée. Il faut vous ménager, c'est important. Il faut vous reposer, et puis, entre nous, vous l'avez bien mérité. » Marie-Ange la remercia timidement. Elle avait de l'estime pour l'édile, elle était gênée de la laisser se fourvoyer de la sorte, elle aurait tant aimé pouvoir tout lui avouer, mais comment aurait-elle pu lui raconter pareille traîtrise ? Marie-Ange sortit de sa poche le petit carnet sur lequel elle avait noté les principaux éléments de son discours, et se lança.
C'était un extrait de « À la Blonde Franquette », écrit par Louise Katz, dit aussi par Louise Katz. Bonjour Louise.
Bonjour Yann.
Merci de nous rejoindre dans Le Grand Tout. Une fois de plus, on va parler de ce beau recueil « Reine Noire, Nouvelle Noire ». C'est Loïc Desroches qui présente cette collection de 10 textes écrits par des auteurs autrices rennaises. Ça paraît chez Asphalt le 7 mai et vous commencez à comprendre et à connaître le principe maintenant si vous nous écoutez depuis quelques jours. L'idée, c'était de proposer à un auteur, une autrice, donc, de s'intéresser à un quartier, d'y planter un décor et puis d'y faire évoluer les personnages d'une nouvelle qui doit forcément avoir de près ou de loin un lien avec le noir. Est-ce que tu considères, Louise, que c'est une nouvelle noire à proprement dire ou pas vraiment ?
Dans le code du noir, il y a au moins la présence de la drogue et des stupéfiants. Donc ça, c'est une des thématiques du noir. Après, moi, le noir, c'est un genre autour duquel je tourne beaucoup en étant toujours un peu à la frontière. On ne sait pas si ça en est ou si ça n'en est pas. Mais voilà.
L'histoire de Marie-Ange, une alternance de discours qu'elle prononce elle, qu'on prononce à son endroit aussi, sur la fermeture d'un restaurant solidaire qui se place dans le Blône, centre commercial Torigné. Mais il a existé en fait ce lieu-là, il s'appelait pas à la Blonde Franquette, mais il s'appelait comment ?
Il s'appelait la Grenouille à grande bouche, parce que dans une vie antérieure, effectivement, j'ai peut-être été ce personnage un petit peu proche de Marie-Ange, qui ouvre avec des copains un restaurant solidaire dans le quartier du Blône à Rennes, la Grenouille à grande bouche qui reversait ses bénéfices et qui n'a pas tellement survécu au Covid, on a fait faillite en 2022.
Mais qui ne s'est jamais accoquiné avec le banditisme et le deal de drogue du quartier.
Bah non, sinon on aurait survécu.
C'est ça, voilà, hein, c'est sûr. Alors ça se balade donc entre ces discours-là et puis les pensées et les souvenirs de Marie-Ange qui a perdu progressivement le contrôle du restaurant et la situation et qui s'est mise au service du deal dans le quartier. Voilà, à gros traits, ce qu'on peut en lire dans cette nouvelle-là. Elle est excellente pourtant en marketing, Marie-Ange. Ce personnage-là, est-ce qu'il pourrait exister véritablement, Louise, du côté du Blône ou ailleurs, à Rennes ou dans d'autres villes ? Il existe peut-être ?
Bah, elle existe parce que c'est vraiment un personnage typique. En tout cas, enfin, moi, j'évolue moi-même dans ce milieu de l'économie sociale et solidaire où plus largement ce milieu associatif rennais. Donc il y a beaucoup, enfin d'ailleurs voilà, c'est, elle est très caricaturale, mais on a, j'ai poussé un peu la caricature sur ce personnage là mais oui elle existe. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire et qui cherche des moyens de résister. Et en fait cette histoire de Marie-Ange, elle est née, cette idée d'un personnage associatif pris dans le trafic de drogue, c'est né d'une discussion avec les artistes des Ateliers du Vent, où je suis aussi artiste associée, comme Cécile Kerel qui participe au recueil d'ailleurs. Et on réfléchissait, parce qu'il y a beaucoup de coupes budgétaires pour le milieu associatif. On a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts dans nos activités. Et donc, on rigolait en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle nouvelle rentrée d'argent on pourrait avoir aux Ateliers du Vent? Et on se disait, la drogue. Bon, c'était dit un peu en rigolant, mais voilà. Donc, c'était... la nouvelle est partie de ce scénario de « et si comment on pourrait faire ?» Donc ça, c'est sur le côté, le volet associatif. Et puis, dans le quartier du Blône, et ce qu'on raconte pour les enfants qui rentrent dans le trafic de drogue, et comme beaucoup de gens, c'est qu'on y rentre malgré soi parce qu'on est vulnérable. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces histoires de trafic de stupes, pas vraiment en ayant eu envie de faire carrière là-dedans. Donc c'est aussi un peu cette idée d'engrenage que j'ai voulu montrer d'un point de vue un peu légèrement comique, mais qui sont des réalités très sombres et très noires pour le coup.
Cette nouvelle s'insère dans la deuxième partie du recueil. La ville n'est pas un long fleuve tranquille. On voit l'emprunt. On voit aussi les emprunts quand Marie-Ange invente des noms pour mieux commercialiser les drogues. La Chupa Shit, par exemple. L'Iketa aussi. Et autres variantes. Donc même si ça n'a pas existé comme ça, la grenouille à grande bouche, évidemment, ça pourrait servir de mode d'emploi, finalement, à une couverture d'un commerce illicite de drogue.
Ouais, mais ça, c'est parce que les histoires des jeux de mots, c'est un vrai truc qui existe et que ça m'a fait rire parce que c'est finalement le seul vrai procès qu'on a pu mener contre les trafiquants de drogue. C'était Haribo pour contrefaçon de marque et c'était quelque chose dans la presse qui m'avait fait rire et donc je l'avais repris. Et par ailleurs, dans La Grenouille à Grande Bouche, qui était un restaurant mais aussi une revue culinaire de société dont j'ai été la rédactrice en chef, on faisait des titres comme beaucoup souvent dans la presse avec des jeux de mots, et donc je suis un peu préposée aux jeux de mots foireux et donc évidemment pour le personnage de Marie-Ange, je me suis dit elle est nulle en marketing comme tous les gens de l'économie sociale et solidaire et de l'associatif, parce que on déteste ça, faut quand même le dire. Et donc là elle se retrouve à faire un truc pour lequel elle est nulle, mais il y a un truc qu'elle sait faire, c'est les jeux de mots. Voilà.
Vous en trouverez quelques autres, je n'ai pas tout dévoilé évidemment. Alors les lieux existent, on est boulevard de Bulgarie, on n'est pas loin du Landrel, on n'est pas loin du centre Torigny aussi. On voit le quartier s'est transformé, on va en parler peut-être en deuxième partie de discussion avec Louis Katz tout à l'heure, mais avant ça, parler de cette nouvelle carrière. Alors elle a commencé quand cette façon d'écrire comme ça, quand est-ce que tu as commencé à écrire, Louise? Parce que je peux me référer à un article récent du Club de la Presse où en trois questions on apprenait d'emblée que tu avais eu une carrière d'enseignante chercheuse au CNRS. Qu'est-ce qui t'a amené vers le journalisme plus récemment et puis l'écriture aussi?
C'est vrai que j'ai écrit des trucs dont j'en parle jamais quand on me demande, mais donc j'ai écrit des choses très très, j'ai déjà publié un livre mais qui était qui est passionnant mais qui est ennuyeux peut-être pour le grand public, sur la lecture à la Renaissance. Donc moi j'ai fait des études de latin, donc ça fait toujours rire les gens, parce que quand je dis je suis docteur en latin, c'est toujours un peu exotique. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire? Je crois que j'ai toujours, et au journalisme, c'est toujours cette même intérêt de comment d'avoir envie de raconter des histoires et de s'intéresser aussi sur l'autre chose qui me guide. Mes recherches, c'était sur la lecture à la Renaissance, et c'est de travailler sur comment on reçoit les textes, comment les textes circulent, comment on se parle en fait, comment on discute entre nous. Et je pense que ça, c'est vraiment le fil rouge de toutes les activités. Je suis fascinée par le fait qu'on n'arrive pas à se parler ou pas à s'entendre, ou que les messages ne passent pas. Et donc quel que soit ce que j'ai fait, même dans la revue culinaire, même le restaurant, en fait c'était une manière de dire les gens vont se rencontrer, c'est un lieu de sociabilité, et on va les aider à se raconter des histoires entre eux, à partager des histoires et à partager des moments de vécu. Donc en fait c'est vraiment peut-être ce fil rouge là plus que l'écriture même qui guide toutes mes différentes activités professionnelles.
Donc l'écriture pourrait véritablement être la solution miracle à tous ces problèmes de difficultés de compréhension les uns avec les autres.
Ah, je crois pas, je crois au contraire. En fait, les études de lettres, elles existent parce qu'on se comprend pas par écrit. L'écrit, il est, enfin, c'est ce que j'ai, quand je donnais des cours à la fac, c'est ce que j'expliquais à mes étudiants. L'analyse de texte, elle commence par il ou elle m'a mis bisous à la fin du message. Tu crois que ça veut dire et ben voilà, ce tu crois que ça veut dire, c'est tout le drame de la littérature, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, mais en même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'on comprend des choses différentes et qu'on peut en parler entre nous.
On comprend bien, en tout cas, la lecture de cette nouvelle à la blonde Franquette, que Marie-Ange passe un sale moment quand même, et pourtant, elle aurait tellement voulu que ce soit un beau moment et que ça continue plus longtemps, cette histoire. Est-ce que ça pourrait être quelque chose que toi, tu aurais aussi vécu, le fait que vous avez dû arrêter la grenouille à grande bouche à cause du Covid, et si ça avait continué.
Ouais, bah ça, on était évidemment hyper triste que ça s'arrête. On n'était pas tout seul. Il y avait vraiment, c'était un gros collectif. Hein. C'était une entreprise déjà qui comptait 13 salariés. Donc c'est très difficile quand on arrête ce projet-là. C'était aussi une société coopérative d'intérêt collectif. Donc il y avait plus d'une centaine de sociétaires. C'était pas qu'un projet personnel. Il y avait tout le lien avec les acteurs du quartier. L'idée que pour des gens, ça représentait vraiment quelque chose, un espoir, un endroit, vraiment un lieu de sociabilité aussi à l'échelle du quartier. Et ouais, souvent, on se dit, mince, on tenait quelque chose et ça fait chier que ça se soit arrêté, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Mais après, c'était aussi un premier projet. Et souvent, sur les premières entreprises, on fait plein d'erreurs, donc on en a fait plein. Et puis on a ouvert en février 2020. Enfin, on a vraiment ouvert deux semaines avant le confinement et la fermeture de tous les restos. Donc on n'a pas été aidés non plus, quoi.
Le fait de participer à cette aventure collective, c'est pas une nouveauté. Tu aimes les aventures collectives, les coopératives, les associations. Tu n'as travaillé que dans cette environnement depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être. Ça donne quoi comme impression finalement de participer à cette aventure-là?
J'étais hyper contente, vraiment. En plus, il y a autre chose, c'est que quand Loïc Desroches m'a proposé de rejoindre le casting, d'abord j'étais hyper flattée parce que c'était vraiment mes tout petits débuts. J'avais gagné un concours de nouvelles pour Quai du Polar il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans maintenant, et j'ai un roman à paraître, mais pour l'instant je suis la seule du recueil à n'avoir pas publié. Donc j'étais très honorée. Mais en plus, j'étais très contente parce que dans La Grenouille à Grande Bouche, la revue, nous avions un feuilleton qui s'appelait Le Crapaud, qui était une espèce de simili-poulpe, donc avec un serial killer qui sévissait sur le quartier du Blône. Et donc il y avait une nouvelle à chaque numéro. Et il y avait déjà, parmi les gens qui avaient écrit, il y avait déjà un certain Benjamin Dierstein, il y avait une certaine Isabelle Amonou, il y avait un auteur publié par Xavier Dolo, enfin, et donc en fait c'était trop plaisant de retrouver tous les copains, enfin c'était aussi comme une suite, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de remettre un peu d'écho de La Grenouille dans ce recueil.
J'ai demandé à Louise Katz, comme aux autres auteurs, autrices de nouvelles, de nous proposer une sélection musicale en 2 titres. La première, ça va être Sharon Van Etten. C'est un morceau qui aurait pu faire du bien à Marie-Ange à la fin de cette horrible soirée qu'elle a passée.
C'est surtout, en fait, c'est le titre de la chanson Something Isn't Right. Sur cette légère dissonance, c'est un morceau qui est assez gai et entraînant, et pourtant quelque chose ne va pas.
On l'écoute et juste après on parlera un petit peu de ce qui va ou ce qui ne va pas au Blône, on parlera plus du quartier et puis aussi de ce qui va occuper Louise Katz, notamment les 3 ours, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu participes aussi à cette belle aventure de journalisme sur scène. Sharon Van Etten.
Something ain't right.
Something ain't right. Si, tout va bien. Enfin, semble-t-il, tout va bien, puisque on a des nouveaux équipements culturels, on a un conservatoire, on a un quadri, on a le triangle, et qui ne cesse de proposer des choses très excitantes culturelles autour de la danse au public rennais. Mais pourtant, non. Il y a quelque chose qui va pas, peut-être, et c'est pas forcément que le deal en bas des tours, forcément pas. Mais en tout cas, il existe, et c'est pour ça, d'ailleurs, que Louis Katz en est un petit peu inspiré de l'entourage de la grenouille à grande bouche feu, le restaurant solidaire au Blown. Toi, tu remets un petit peu les pieds de temps en temps au Blown, Louise ?
Bah, tout le temps, en fait, parce que, enfin, tout le temps, quand même assez souvent, parce que d'abord, moi j'habite au sud de Rennes, à l'extérieur, donc c'est vraiment ma porte d'entrée, c'est de rentrer dans Rennes par le Blown. Et aussi parce que justement, on a toujours nos bureaux au quadri, hein, donc ce fameux dernier étage d'où on voit si bien les points de deal et que les policiers nous envient, apparemment. Donc ouais, non, j'y vais tout le temps.
Quel est ton constat alors, finalement, si tu observes une situation et si même tu le dis, les policiers t'envient ce point de vue imprenable sur le quartier, comment ça se passe vraiment là-bas?
Bah après, moi je vis pas sur le quartier, donc c'était aussi pour ça la nouvelle. J'ai vraiment choisi l'endroit d'où je pouvais raconter, c'est-à-dire cette idée des associatifs et de ce qu'on fait porter sur eux pour tenir un peu tout ça ensemble. C'est une politique qui est critiquée, mais moi j'y crois parce que j'imagine qu'on n'en a pas vraiment d'autres, à vrai dire. Je vois pas bien, je pense pas qu'il faille tout passer au Karcher ou qu'en mettant des caméras de sécurité partout ça change quoi que ce soit. Donc je crois, peut-être un peu naïvement, mais j'y crois encore à cette idée que par le lien social, par la culture, par on arrive à tenir les choses ensemble. Et donc ça, j'ai eu envie de le raconter. Et l'autre chose, mais moi qui me rend toujours très mélancolique, c'est ce qui disparaît. Et donc... c'est aussi toute la rénovation urbaine qui est en cours. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a eu la fermeture du restaurant que nous, on arrête. Mais il y a eu un autre chose qui nous a un peu pincé le cœur avec l'équipe de la grenouille, c'est la destruction physique du lieu. Ça, c'est quand même très, très particulier. Et donc, il va aussi avoir la fermeture de l'hôpital sud, qui va devenir une énorme friche dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va être, avec peut-être de l'occupation temporaire. Peut-être, on ne sait pas. Et donc, oui, c'est un quartier qui à la fois garde ses problématiques anciennes de mixité sociale et qui en même temps voit ses anciens qui disparaissent, qui est en mutation complète finalement.
Il y a eu 12 numéros entre 2017 et 2020 de La Grenouille à Grande Bouche. Est-ce qu'elle parlait évidemment pas que de cuisine et de nourriture? Tu parlais d'un feuilleton tout à l'heure. Il y a eu des enquêtes que vous avez menées aussi au sein du quartier, ou c'était pas le propos vraiment?
C'était moins le propos. On avait, nous, l'ambition de faire un média national fabriqué à Rennes. En gros, c'est un peu ce qu'on se dit, c'est que souvent les médias, on fait une disjonction entre les médias locaux qui parlent de ce qui se passe près de chez vous et les médias nationaux qui sont en fait parisiens. Et donc, nous, on se dit, mais en fait, on peut parler de tout ce qui se passe en France depuis n'importe où. Donc, pourquoi pas de Rennes? Donc, c'était pas exclusivement sur le Blône. Après, l'attachement au quartier, il se faisait plus par tous les partenariats qu'on faisait, parce que comme il y avait une dimension participative du projet, il y avait les gens pouvaient venir aider à cuisiner, pouvaient venir aider au service. Donc ça permettait aussi de rencontrer des gens, de s'initier à des métiers de la restauration. Et on avait la même chose pour la revue, avec de l'écriture de chroniques, avec de l'écriture de reportages. Et donc ça, c'était très chouette, parce qu'on a travaillé avec des gens très très différents, et y compris avec les centres sociaux du quartier, qui jouent un rôle essentiel. Mais on avait aussi travaillé avec le centre hospitalier Guillaume Régnier, enfin, avec de l'insertion. Donc on a vraiment travaillé avec tous ces partenaires-là. Donc j'avais un peu cette vision 360 en fait, de l'activité associative sur le quartier, comme en étant un petit maillage, un petit rouage de ce maillage très serré. Et vraiment, moi je suis très très admirative de tout le boulot qui est fait par les associations à Rennes, quoi.
Si on suit un petit peu ton évolution depuis la grenouille à grande bouche, qu'on parle du CNRS, tu le disais tout à l'heure auparavant, et puis de l'enseignement aussi, du latin, du journalisme, de l'écriture, on voit bien que l'envie de raconter des histoires, elle est au cœur de tes envies professionnelles. Et là, il y a une nouvelle façon encore de raconter des histoires plus récemment, depuis 2024, c'est la création de ces spectacles sur scène, de ces comment vous les appelez, les prestacles
ouais.
C'est les Trois Ours, en compagnie de Nathanaël Simon et puis de Julie Lalouette Geoffroy. Je le dis mal, pardon Julie. On a déjà présenté les Trois Ours ici, mais pour ceux qui n'auraient pas encore croisé le chemin de cette manière nouvelle de raconter des histoires et d'informer en même temps et de faire du spectacle.
Bah voilà, l'idée c'est de faire monter des journalistes sur scène, mais pas que. Enfin, donc ça peut être aussi des gens de la société civile, comme on dit, pour raconter l'actualité, et pas seulement l'actualité, mais c'est l'information et comment elle se fait. C'est-à-dire aussi, on demande aux journalistes de faire un petit exercice de transparence et de raconter aussi, en fait, ce qu'ils ne peuvent pas raconter dans leur papier. Et donc, c'est aussi toutes les conditions matérielles. Parfois, c'est ce jour-là, j'étais contrariée parce que j'avais telle ou telle problématique personnelle qui est venue interférer, ou en fait, là, j'ai eu un dilemme parce que, en fait, je ne sais pas comment je l'ai traité comme ça, mais je sais pas ce que j'aurais dû faire. Et ça, c'est important pour nous, parce que c'est vraiment une façon de recréer du lien entre les journalistes et les personnes informées. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en rejet des journalistes, en rejet des médias. Et donc, c'est de montrer que les journalistes sont des êtres humains qui font parfois ce qu'ils peuvent. Parfois, ils font mal, mais un peu comme tout le monde, et qu'en fait, on peut discuter. Et puis aussi, entre les informés entre eux, parce que l'actualité est devenue un sujet hyper clivant, où on a de plus en plus, semble-t-il, peur de se parler de l'actualité ensemble en se disant on va pas être d'accord. Donc là, c'est pouvoir aussi, le temps d'un spectacle, recréer un référentiel commun et pouvoir en parler ensemble, tranquille, quoi. En fait, c'est juste pas grave de pas être d'accord, c'est plutôt sain et c'est plutôt cool, en fait, quand on y pense.
On ne parlera pas de toutes les activités de Louise Katz, forcément, parce que c'est vrai que sinon, on parlerait aussi de la coopérative funéraire et puis des cafés mortels. Sujet très intéressant aussi. Et on voit encore le collectif et les histoires, parce que finalement, les histoires sur le deuil, sur qu'est-ce qu'on fait de nos morts, c'est peut-être les plus vieilles histoires au monde, peut-être. On va plutôt terminer cette discussion avec Louise vers ce qui attend les lecteurs, les lectrices, après qu'ils auront eu, évidemment, ils auront lu cette belle nouvelle que j'aime beaucoup aussi, mais je les aime toutes, hein, finalement, à la Blonde Franquette, dans le recueil Rennes Noire. Un long jeu, on dirait ça en musique, un long playing, un long texte, en fait un roman, ça arrive.
Ouais, premier roman en janvier 27 chez Plon, et je suis hyper contente. Ça s'appelle Oedipe Remix, et c'est une réécriture du mythe d'Oedipe à l'ère contemporaine, on va dire. Donc c'est un peu re-réfléchir à ces problématiques d'inceste entre le mythe à l'époque et ce que ça dit aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu toute la vague MeToo, inceste, etc., et qu'on relie ce sujet de société société différemment. Donc voilà, donc ça mêle plein de références à l'Antiquité, plein de revisites, et c'est le lien avec le latin, ça. Et en même temps, voilà, problématique très contemporaine qui me tient très à cœur. Donc je suis très contente de voir ce roman paraître.
On lira ça avec plaisir, évidemment, j'espère. Attention, en tout cas, c'est sûr, lorsqu'il paraîtra chez Plomb. Donc, et on va terminer eh bien, avec une petite direction vers la Grèce aussi, une musique que tu nous proposes aussi aujourd'hui.
Ouais, c'est Stella, c'est une chanteuse de pop grec, et je trouve ça cool. On ne connaît pas beaucoup la pop grecque, et ça, c'est un morceau qui chante en grec moderne. Et voilà, et je trouve ça chouette, la pop européenne de qualité qu'on ne connaît pas toujours. Et voilà, Stella, moi, je vous recommande d'écouter ses albums. Ça s'écrit avec un sigma. Et franchement, le dimanche matin, quand on commence un peu tranquille, s'il y a un peu de soleil, c'est parfait.
Merci Louise Katz. Je poserai bien sûr un lien vers les trois ours sur la page du Grand Tout sur canalb.fr. Merci et belles aventures.
Σαν κάθε μέρα να σε βρω. Δεν μπόρεσα να φανταστώ πως η μέρα θα γελαστώ. Που πίστεψα πως θα σε βρω στο ίδιο μέρος το γνωστό.
Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas entendu la voix de Léa. Bonjour Léa.
Salut.
Venir nous parler bande dessinée. Eh bien voilà, tu reviens après quelques semaines d'absence pour nous proposer Onde Graphique numéro 8, toutes les deux semaines ou un peu plus des fois. Tu nous parles bande dessinée. Aujourd'hui, deux chroniques d'albums. Chapernucci de Giuta. Je le prononce comme ça, je ne sais pas, c'est un auteur italien. C'est traduit par Aude Lamy et c'est paru à l'emploi du mois en janvier dernier. Et puis aussi Ketsudan par Mud et Motelier. Là, c'est paru chez Drago tout récemment en avril 2026. Le printemps arrive, vous allez pouvoir vous jeter sur les bandes dessinées dont tu nous parles et puis aller les lire dans les parcs, par exemple. Beau programme!
Peut-être avez-vous écouté une de mes chroniques précédentes dans laquelle je présentais un roman graphique un brin inquiétant, Olénie d'Aurélien Maury. Une petite bête pompeuse d'énergie qui s'immisçait dans le quotidien d'un couple jusqu'à un point de non-retour. Avec Chapernucci, on est encore avec un être spécial, mais nettement moins malaisant. C'est une espèce de chat sans membres, façon boudin de porte bleu, à monosourcils jaunes et grandes moustaches. Il ne parle pas, mais parvient à s'exprimer grâce à son regard. Enfin, là, c'est plutôt de l'ordre de l'interprétation de chacun. En fait, Chapernucci, c'est surtout une mascotte nationale depuis des décennies. Nul ne connaît ses origines, ce qui entretient le mythe. En gros, c'est The Superstar. Sauf que la BD s'ouvre sur ses funérailles rendues nationales. La foule forme une queue interminable. Les fans sont venus de loin rendre un dernier hommage à leur idole. Petits et grands font connaissance dans la file, on se raconte ses souvenirs liés au mystérieux chat bleu. Et puis on remonte les derniers mois de Chapernucci jusqu'à son destin funèbre. C'est à une exposition qu'il fait la rencontre fracassante d'une jeune fille. Fracassante, c'est le cas de le dire, puisque non seulement c'est le thème de l'exposition, les fractures, mais aussi, parce qu'accident ou non, le chat provoque la chute de la jeune femme qui se casse le bras. Olga et son compagnon décident d'aller passer l'été dans la campagne italienne et profiter simplement de l'indemnisation de l'assurance. La vie est douce, à base de baignades et de contemplation des étoiles. Et contre toute attente, Chapernucci se pointe au guidon de sa moto. Ouais, il est vraiment capable de conduire. Ce qui devait être une courte visite s'étire finalement. Ni Olga ni Fausto ne déchiffrent vraiment les intentions de l'animal, mais sa présence vire à l'obsession. Jutta est né en 91 dans la République de Saint-Marin, c'est un micro-état au nord de l'Italie. Il a travaillé pour la presse et si vous lisez l'italien, vous pouvez retrouver ses histoires courtes sur son site, que je te laisserai indiquer, Yann, sur le podcast. Chapernucci est son premier titre, traduit en français par Aude Lamy. C'est une lecture étonnante, entre absurde et surréalisme. Bah oui, il sort d'où ce truc bleu bizarre? Il sert à quoi? Pourquoi il fascine autant les foules? Et en un temps trois mouvements, le lecteur aussi est fasciné. Parce que Jutta a bien construit son récit. En commençant par les funérailles, il attise tout de suite la curiosité, mais aussi car il nous livre des informations de plus en plus intimes. Au départ, on a le droit à des infos un peu what the fuck, du genre Chapernucci adore les pâtes à la sauce tomate. Pour finir sur son plus grand secret que je vous laisserai découvrir. Son attitude vis-à-vis du couple devient aussi de plus en plus ambivalente. On ne parvient pas vraiment à saisir ses intentions. C'est plutôt malin parce qu'on prend part à ce que l'auteur dénonce, une fascination pour nos idoles qui peut se transformer en obsession malsaine. En effet, on remarque que certains fans vont jusqu'à traquer leur idole quitte à empiéter sur son intimité, et même le couple Olga-Fausto qui, au départ, critique les fans ultra, voit leur comportement changer au fil du temps passé en présence de l'étrange animal. Avec l'image de Chapernucci, Jutta dresse une satire piquante de notre société de surconsommation, avec la marchandisation d'une quantité débile et astronomique de trucs à son effigie. Son identité est déclinée en plein d'objets comme des fringues, des briquets, des tasses. C'est à celui qui détient le plus ou le plus rare qui ira la gloire. En somme, c'est un roman graphique divertissant au dessin plutôt minimaliste. Les traits des personnages sont plutôt simples. Les couleurs et les décors sont super lumineux, dans des tons pastels très printaniers. C'est une lecture parfaite pour le retour des beaux jours.
Ben voilà, on est d'accord. Vous allez pouvoir entendre maintenant la sélection musicale qui va coller avec cet album. Pourquoi tu as choisi Zastava, Léa ?
Eh ben, parce que c'est un peu ma petite obsession à moi du moment. Donc, je trouvais que c'était rigolo de le proposer pour illustrer cette obsession des fans par rapport à ce chat tout bleu.
On écoute le titre Blaine par donc le groupe Zastava. I wish you never said. C'était à l'instant le morceau Blaine par Zastava, choisi par Léa dans sa chronique Onde Graphique. C'est la huitième du nom. Tu poursuis avec cette fois la présentation de Ketsudan par Mud et Motelier. C'est paru tout récemment chez Dargo.
Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Ces quelques vers vous rappelleront peut-être vos années lycée et ces cours de français. Peut-être des bons souvenirs ou alors celui d'une tannée à lire une pièce imposée. Eh bien, figurez-vous que le scénariste Mud, à qui l'on doit certains scénars bien énervés des Doggy Bags au label 619, s'est attaqué à un monument de la culture en la personne du Cid de Corneille. Non content d'en faire une copie conforme, il a plutôt transposé l'intrigue dans un Japon féodal et fantastique. Exit les morts que l'on expédie hors du royaume d'Espagne, bonjour le Japon, ses samouraïs et ses yokai. Mud garde les tenants et les aboutissants de la pièce écrite en 1637, à savoir deux jeunes gens épris et promis l'un à l'autre, mais qu'une querelle de la part de leur père va tragiquement séparer. En effet, le jeune homme est tenu de venger son père en tuant celui de sa bien-aimée, fait auquel elle demandera réparation malgré son amour intact. Le héros aura alors la possibilité de partir en quête de gloire et de rédemption, suffisamment peut-être pour acheter son meurtre. La pièce a une aura ô combien tragique. Choisir l'honneur ou l'amour, ici dans un Japon traditionnaliste où l'on connaît l'importance du Bushido, le code d'honneur. La construction reste celle d'une pièce de théâtre. Mud a gardé tous les dialogues en alexandrin, pour rappel ce sont des vers en 12 syllabes. Si cela peut surprendre, ça donne pourtant un vrai rythme et une musicalité particulière. La BD est découpée en 5 actes de 3 scènes, et là où elle est originale, c'est qu'elle contient des espèces d'entractes qui permettent d'apporter des éléments complémentaires sur certains personnages et leur passé. En plus d'enrichir le récit, ils sont graphiquement hyper jolis. On dirait de l'encre sur du papier parchemin. Et d'ailleurs, de manière plus générale, le dessin de Moteler nous transporte avec son dynamisme à la croisée entre manga et franco-belge. Les scènes de combat sont ultra quali et épiques, et les scènes plus contemplatives sont très élégantes, comme celle d'ouverture qui se déroule dans des bains japonais avec les cerisiers en fleurs, on s'y croirait. En somme, Ketsudan, c'est une relecture moderne et super ludique d'un grand classique dramatique. Je suis allée aussi chercher la traduction du titre et ça signifie décision importante, choix capital. On est en plein dedans.
Un choix cornélien. Donc, merci Léa pour cette chronique. On va poursuivre avec un choix qui vient à la fois du cinéma et du Japon.
Ouais, j'ai choisi de passer The Flower of Carnage de Meiko Keiji, une grande artiste japonaise, actrice et chanteuse qu'on a pu voir dans Lady Snowblood et entendre dans la BO de Kill Bill avec ce morceau, dont le tragique est parfait pour accompagner la lecture de Ketsudan.
Et je me permets de vous signaler que les albums des années 1970 de Meiko Keiji sont réédités en vinyle, si vous êtes puriste, sur le label We Want Sound. Donc voilà, jetez-vous dessus, on écoute donc The Flower of Carnage. Merci du choix.
Yuku onna, namida wa toni てました振り向いた川に遠ざかる旅の日がいてた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水面にほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ恨みの道を行く女心は後に捨てました縁のない言葉恨みの川に身を委ね女は遠に捨てました
C'était la deuxième sélection musicale proposée par Léa dans sa chronique Onde Graphique numéro 8 qui arrive à son terme, non pas sans avoir quand même évoqué deux infos autour de la bande dessinée qui vont se dérouler dans les jours et les semaines à venir.
Tout à fait, on commence avec Sirène qui aura lieu le 9 et 10 mai à la Cité Universitaire Sévigné avec la présence d'Ismaël Legrand qui a fait Deathbringer en fin d'année. Il y aura aussi Noé Monin, Fabien Wellman. Je vous propose de regarder le programme sur leur site. Et puis aussi, mercredi 13 mai, il y aura un concert dessiné de Cut the Alligator et Nicolas Petrimo. C'est celui qui a fait Il faut flinguer Ramirez. Ça sera à la MJC de Bréquigny à 20h30 et la billetterie est directement sur le site de la MJC.
Merci Léa, se retrouve bientôt pour à nouveau que tu nous présentes des bandes dessinées dans Onde Graphique dans l'émission Le Grand Tout, normalement tous les 15 jours le jeudi sur Canal B. On espère que dans 15 jours on se retrouve.
Mais oui, j'espère.
À bientôt, salut.
Salut.
C'est ainsi que s'achève Le Grand Tout aujourd'hui. On se retrouvera vendredi pour une nouvelle émission, une émission spéciale puisque ce sera un Champ Libre A. On retrouvera l'artiste visuel Manon Langeouer qui, tout comme Anita Conti, Juliette Pavy, Julie Bourges et Marine Lanier, voit ses travaux artistiques exposés dans l'exposition La mer jamais ne s'oublie. 5 regards de femmes artistes sur la mer, des regards qui s'adressent à nous, qui sont un rappel, comme l'écrivait Anita Conti, pour tous ceux-là qui oublièrent que la mer jamais ne s'oublie. Ce sera une émission enregistrée, il n'y aura pas d'émission directe évidemment, c'est le 1er mai, c'est la journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. On se retrouvera lundi pour une nouvelle émission, mais je vous conseille d'écouter l'émission avec Manon Langeouer parce que c'est vraiment un très très chouette moment. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !